Bonsoir à toutes et à tous, Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Pour présenter l'émission, Corentin et Mathieu, Ludo et Gilles à la technique. On les remercie beaucoup pour le dépannage. L'émission de ce soir est consacrée à l'évasion fiscale. Donc nous avons tenté d'y voir un peu plus clair sur les différents mécanismes et sur l'ampleur de l'évasion fiscale. Nous reviendrons bien sûr sur les grands scandales fiscaux des dernières années et notamment sur les indispensables lanceurs d'alerte. Et nous évoquerons également les mobilisations, les revendications citoyennes et les différentes évolutions législatives qui luttent timidement contre cette grande évasion. Pour discuter de ces questions, nous avons deux invités. En studio, nous avons Lucie Vatrinet.
Bonsoir.
Qui est chargée de plaidoyer financement du développement à l'association CCFD Terre Solidaire. Vous êtes spécialiste des questions d'évasion et vous coordonnez notamment les travaux de la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires qui regroupe 19 ONG et syndicats mobilisés dans la lutte contre l'opacité financière. Au téléphone, depuis l'Isère, nous avons Denis Dupré.
Bonjour.
Voilà, vous êtes là. Vous êtes enseignant-chercheur en éthique, développement durable et finance à l'Université de Grenoble. Par le passé, vous avez travaillé donc une quinzaine d'années au sein de différents organismes bancaires. Vous êtes membre du comité Stop Évasion Fiscale et vous avez notamment lancé une pétition qui a eu un certain succès sur change.org, donc la pétition « Faire passer dès 2016 une loi pour contrer l'évasion fiscale » qui a recueilli à ce jour plus de 113 000 signatures. Vous pouvez réécouter l'émission mercredi prochain à 7h du matin sur Fréquence Paris Pluriel ou la podcaster comme toutes les précédentes émissions sur le site internet de la Fondation Copernic et sur celui de Mode d'emploi. On va commencer cette émission par un petit état des lieux sur le phénomène de l'évasion fiscale, sur la définition des différents mécanismes. Alors déjà, pour avoir une petite idée de l'ampleur de l'évasion fiscale à l'échelle française, européenne, internationale, Lucie Vatrinet, qu'est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée sur les chiffres, même si forcément, comme ce sont des mécanismes qui sont quand même régis par le secret, c'est difficile d'avoir des chiffres précis et vérifiés, mais quels sont un peu les ordres de grandeur pour donner une idée aux auditeurs?
Alors avant même les ordres de grandeur, je pense qu'il faut déjà être clair sur la définition, enfin en tout cas ce qu'on entend par évasion fiscale. Pour nous, j'ai dit nous en tant qu'organisation de la société civile, l'évasion fiscale est vraiment à distinguer de la fraude fiscale. La fraude fiscale, on parle de mécanismes illégaux qui permettent à des particuliers ou à des entreprises d'éviter de payer leurs impôts. Par évasion fiscale, nous on entend tous les mécanismes légaux qui permettent notamment aux grandes entreprises multinationales d'éviter de payer des impôts dans les pays où elles ont une vraie activité. Comment ça se passe? C'est quand vous transférez vos bénéfices artificiellement dans des paradis fiscaux, mais on pourra y revenir. Donc sur l'évasion fiscale seule, on estime, enfin c'est compliqué, il y a plein d'estimations différentes, mais en gros moi j'ai tendance à, les parlementaires disent entre 40 et 60 milliards d'euros par an, c'est quasiment le budget de l'éducation nationale en France.
Et ça, ce sont les fonds qui sont camouflés ou c'est vraiment le manque à gagner fiscal?
C'est le manque à gagner fiscal.
D'accord, donc c'est vraiment...
Si vous ajoutez à ça la fraude fiscale, on est à entre 60 et 80 milliards, donc les deux, on est à peu près 130-140 milliards d'euros par an en France. Au niveau de l'Union européenne, il y a des chiffres de la Commission qui parlent de 1000 milliards par an, pareil, en termes de pertes, fraude et évasion fiscale confondues. Et du coup, si vous mettez ça au niveau international, on est à plusieurs dizaines de milliers de milliards. Donc, c'est effectivement des chiffres qui donnent le tournis, des chiffres, des fonds qui manquent dans les caisses des États. Donc, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Derrière, ça veut dire des fonds qui manquent pour les services publics. On parle de déficit. Eh bien, avec cet argent-là, si on le récupérait, ça irait nettement mieux.
Sachant que c'est des chiffres par an, quoi. C'est pas un chiffre net comme ça. C'est tous les ans.
C'est tous les ans.
Le manque à gagner
autant
fiscal,
d'argent qui part à cause de la fraude et de l'évasion fiscale.
Si on regarde bien, ça fait à peu près 1 000 euros par Français.
Ouais, j'ai jamais fait ce calcul, mais effectivement, c'est intéressant parce que, et puis du coup, c'est pas, voilà, c'est une poignée qui se permettent de pas participer à la vie de la collectivité, et c'est effectivement une charge qui ensuite repose sur les autres. Donc, on est vraiment face à des problèmes qui sont extrêmement injustes. C'est pour ça qu'on parle d'injustice fiscale et qu'aujourd'hui, on pense que on devrait vraiment agir non seulement pour faire en sorte que les actes illégaux soient fermement condamné, ce qui est absolument, enfin, ce qui est vraiment pas le cas en France aujourd'hui, et d'autre part prendre des mesures pour faire en sorte que ce qui n'est pas illégal, mais qui fait quand même perdre des dizaines de milliards à l'État, puisse être réglementé et qu'on puisse mettre un terme aussi à ce fléau-là.
Monsieur Dupré, vous êtes d'accord avec ce constat et ces chiffres qui, comme le disait mon collègue, sont du coup de l'estimation.
Écoutez, moi je suis complètement d'accord avec Lucie Vatridé. Hein. Et pour compléter un peu l'information, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Parce que des milliards, ça veut jamais rien dire. Mais effectivement, 60 milliards pour la France, c'est l'équivalent de 2 millions de feuilles de paye d'infirmières. C'est-à-dire qu'avec 60 milliards, vous payez 2 millions d'infirmières
par an, ouais.
Pour toute l'année. C'est-à-dire qu'on pourrait rajouter 2 millions d'infirmières en France, ou de ce qu'on veut, de policiers,
d'infirmières. Oui, c'est sûr que ça donne une idée plus concrète.
Et 2 millions d'infirmières, il faut aussi dire que, soi-disant, la France doit faire des économies, et le plan hôpital 2017, il faut réduire de 20 000 le nombre d'infirmières en France. Mmh. Ça veut dire que de l'année prochaine, j'aurai du mal à être bien soigné si je vais à l'hôpital, et que d'un autre côté, il y aurait de quoi payer 2 millions d'infirmières. Et puis, si on regarde aussi, on est en train d'embêter les Grecs. En ce moment, il y a une purge terrible, là, de la semaine dernière, pour un remboursement de 3 milliards d'euros qu'ils n'arrivent pas à faire. On a exigé des réformes drastiques encore en Grèce. Ça va être terrible. Et ça, c'est pour 3 milliards de remboursement. Donc, il faut reproportionner par rapport aux 60 milliards de détournement d'évasion fiscale des grandes entreprises.
Et l'évasion fiscale, du coup, est-ce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur en ce moment? C'est-à-dire, on parle de ces 60 milliards, est-ce qu'on arrive à faire des choses pour les diminuer, ou est-ce que c'est un phénomène qui augmente ou se cache?
En fait, comme les calculs sont assez complexes, c'est jamais les mêmes, ils font les mêmes calculs. Donc, on sait que c'est un phénomène qui est en augmentation, notamment depuis les années 70. Enfin, c'est sûr que quand vous regardez une grande entreprise aujourd'hui, elle a entre 900 et 1000 filiales. Il y a une étude que le CCFD a fait il y a trois ans maintenant, où on calculait le nombre de filiales des grandes entreprises au niveau européen, les 50 plus grosses entreprises européennes dans les paradis fiscaux. C'était en moyenne 117 filiales chacune. Et en fait, du coup, avec cette mondialisation, c'est un autre chiffre, c'est 60% du commerce international qui se fait à l'intérieur d'un même groupe. Enfin, ça, c'est un chiffre aussi qu'on n'a pas souvent en tête. Ça veut dire que vous avez plus de la moitié du commerce international qui est fait à l'intérieur.
Des flux financiers.
Des flux financiers. Ça veut dire qu'en fait, quand les échanges, ils se font souvent à l'intérieur d'un même groupe.
Et entre filiales.
Entre filiales. Et là, on est vraiment au cœur du mécanisme. On est au cœur du mécanisme d'évasion fiscale, dans le sens où, quand vous êtes une grande entreprise, que vous avez des activités dans un pays, imaginons à titre d'exemple la France, par exemple, vous avez des employés en France, vous profitez aussi des infrastructures françaises.
Et du système social.
Du système social. Et vous avez, par exemple, une filiale, on va pas la mettre aux Bahamas, hein, parce qu'on peut la mettre très pratiquement juste à côté, au Luxembourg.
Et Suisse, au Luxembourg, Liechtenstein.
Exactement.
Monaco.
Et, pour prendre l'exemple de McDo, par exemple, qui d'ailleurs s'est encore fait perquisitionner récemment, il y a donc la filiale de McDo qui gère la marque McDo, elle est située au Luxembourg. Ça veut dire que, pour faire simple, à chaque fois que vous vendez des hamburgers en France, il y a une partie de l'argent qui est reversée pour usage de la marque à la filiale de McDo au Luxembourg.
Comme par hasard.
Voilà. Et du coup, au Luxembourg, ces revenus-là ne sont pas taxés, donc les impôts ne sont pas payés au Luxembourg. Et en France, puisque vous délocalisez une partie de vos bénéfices, bah, vous réduisez vos bénéfices et du coup, votre impôt sur les bénéfices aussi. Et c'est ça paraît complexe, mais en fait, c'est assez simple. C'est, vous vous débrouillez pour mettre vos filiales dans des paradis fiscaux, et ensuite, sous couvert de paiement de la marque, remboursement d'intérêts, vous diminuez vos bénéfices dans le pays où vous avez des activités réelles. Du coup, vous payez pas d'impôts dans le pays, et vous payez pas non plus d'impôts dans les paradis fiscaux. Et ça, c'est quelque chose qui a effectivement eu tendance à, enfin, naturellement, hein, avec le commerce international qui continue d'augmenter, les techniques se précisent, sont de plus en plus fines, et c'est quelque chose qui augmente depuis plusieurs dizaines d'années, oui.
Et du coup, Monsieur Dupré, c'est vraiment ce mécanisme-là qui s'amplifie, c'est-à-dire des entreprises qui arrivent à justifier de façon un peu artificielle une transaction avec une autre de leurs filiales.
De l'optimisation fiscale,
oui, on l'appelle. C'est ce qu'on appelle les prix de transfert et qui fait que les grandes entreprises, c'est de la blague, elles payent en général 5% d'impôts sur leurs bénéfices. Alors que notre petite PME, du coin de la rue, elle va payer 25 ou 33%. Mmh. Et c'est très facile, par exemple, comme on est taxé sur les plus-values, vous êtes, par exemple, vous êtes américain, vous vendez sur des CD-ROM, vous vendez un logiciel qui vaut 1000 euros. Bah, vous ne le vendez pas par votre filiale française, mais ça vous coûte 1 euro à produire le CD-ROM. Vous le vendez dans la filiale dans le paradis fiscal. Et la filiale dans le paradis fiscal l'achète 1 et puis va le revendre à la filiale française 999 euros. Et du coup, toute la plus-value va être dans le paradis fiscal. Et après, en France, la France filiale française aura acheté 999 euros, vendra 1000 et elle aura juste une petite plus-value de 1 euro. Donc en fait, tout le monde s'arrange pour ne pas payer d'impôts et pour avoir, comme le dit Lucie Vatrinet, des filiales partout. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me fait rigoler, on est en train de dire que sur les grands patrons, on va essayer de bloquer les rémunérations, mais étant donné que les grandes entreprises ont des filiales dans tous les paradis fiscaux et partout, c'est très facile de faire des rémunérations cachées pour les uns et pour les autres. Donc, on occupe la galerie à l'Assemblée nationale avec des choses que, de toute façon, on ne pourra jamais appliquer, et on ne s'occupe pas du vrai problème qui est, justement, l'évasion fiscale.
Donc là, on parle d'évasion fiscale. Donc la plus grande part, c'est de l'optimisation fiscale par les grands groupes. Si on ajoute à ça l'exil fiscal tout à l'heure, on parlait de la fraude fiscale. Est-ce qu'on a des estimations si on ajoute en plus l'exil fiscal qui est aussi légal. Il y en a sûrement aussi des illégaux, mais des plutôt des particuliers, donc qui se débrouillent pour se faire domicilier fiscalement, bah voilà, dans des pays fiscalité plus avantageuse. Est-ce qu'on a aussi des estimations sur ce phénomène qui se rajoute à l'optimisation fiscale?
Sur l'exil fiscal, moi j'ai pas de données précises là-dessus. Après, la question, c'est, enfin, faut bien distinguer entre ceux qui se déclarent fiscalement à l'étranger et ceux qui ont des comptes à l'étranger qui sont pas déclarés en France,
ouais, voilà,
sur de la fraude. Mais sur l'exil fiscal,
il y a toujours une part de légal et d'illégal dans ces
ça
phénomènes.
Ça dépend, hein, quand vous avez un compte en Suisse, c'est que vous ne le déclarez pas en France, comme le cas de M. Cahuzac. Là, c'est de l'illégalité pure. Hein. Vous avez...
voilà. Ce qui est illégal, ce n'est pas de l'avoir en Suisse, c'est de ne pas le déclarer.
C'est ça. Vous pouvez très bien avoir un compte en Suisse si vous le déclarez en France et que du coup, vous payez des impôts.
ISF en général.
Et l'histoire des Panama Papers, c'est la même chose. Ce n'était pas illégal, forcément, d'avoir des comptes offshore au Panama, à Monaco, à Jersey. Ce n'était pas illégal. La question, c'est de... est-ce que ces comptes étaient déclarés? Après, permettez-moi de douter, quand vous vous amusez à faire des sociétés écrans dont on ne peut pas retrouver le propriétaire, sauf quand il y a une fuite de cette ampleur, en général, je mettrai ma main coupée que dans 98% des cas, c'était pas pour les déclarer au fisc. Mais bon, on verra.
En général, c'est pas pour des petites sommes. Donc
c'est ça.
Il y a le côté légal, mais il y a aussi le côté éthique, et on y reviendra peut-être, où effectivement, il y a des choses la loi permet à l'heure actuelle, mais qu'elle devrait peut-être pas et qu'on devrait pas forcément se permettre.
Exactement.
Denis Dupré, vous, sur l'exil fiscal, vous êtes plutôt concentré sur les phénomènes d'optimisation fiscale des entreprises, ou vous avez aussi des données sur ce phénomène d'exil fiscal qui se surajoute?
L'exil fiscal, on peut dire que c'est très rapide, parce que si vous regardez la Grèce, quand il y a eu menace de saisir les comptes grecs, les comptes de dépôt grecs, on a pu chiffrer qu'il y a eu 300 milliards d'euros.
Ah oui.
Les richesses des Grecs, qui étaient sur leurs dépôts à vue, sur leurs comptes, qui sont partis dans les banques allemandes et suisses, etc. Donc 300 milliards, en général, la France, c'est au moins 7 fois la Grèce ou 10 fois la Grèce.
On peut se dire que sur l'échelle
de
la Grèce.
Il y a au moins 3000 milliards à l'étranger. Et puis quand vous avez vu la liste Falciani sur les juste une banque HSBC en Suisse, vous avez bien vu qu'il y a eu il y avait soi-disant à l'arrivée, il y a eu 3000 noms, mais au départ, il y en avait 6000, hein. Il y en a eu 3000 qui sont disparus dans la nature bizarrement, alors on pourra en reparler. Mais toujours est-il que dans cette liste, il y avait sûrement plein de personnes très haut placées en France, hein. Et du coup, il y a pas mal de noms qui sont partis. Alors, il y a quand même des choses mystérieuses en France. Et donc, si on estimait que l'évasion fiscale en France, c'est au moins 3 000 milliards pour les particuliers, 2 000, 3 000 milliards, ben, le fait que le gouvernement ait récupéré 20 milliards, c'est pas un exploit considérable, hein. Ça fait à peine 1% des sommes. Donc c'est
vous dites 3 000 milliards de manque à gagner ou 3 000 milliards de fonds qui sont camouflés?
En gros, au moins 3 000 milliards d'argent des Français qui sont cachés dans différents paradis fiscaux.
Et du coup, est-ce que l'évolution des pratiques des consommateurs, donc je parle d'Internet en particulier, du numérique, a un impact sur l'évasion fiscale ou sur les mécanismes d'optimisation fiscale?
C'est-à-dire le fait que les problèmes que pose le numérique, en fait.
C'est ça, de façon générale.
Ouais, mais c'est effectivement assez complexe à taxer, hein. Comment vous définissez l'activité de Google en France? C'est tout ce flou-là aussi autour duquel ont vraiment joué ce qu'on appelle les GAFA, les Google, Apple, Facebook, et Facebook d'ailleurs, il m'en manque peut-être un, Amazon. Parce qu'en fait, c'est compliqué. Normalement, il y a quand même des réglementations, hein. Vous n'avez pas, les prix de transfert dont parlait Monsieur Dupré tout à l'heure, vous n'êtes pas censé, par exemple, si vendre à votre filiale des sceaux, par exemple, 100 fois le prix du marché, c'est normalement contrôlé. Vous êtes censé échanger des biens et des services avec vos filiales au prix du marché. Et c'est ça que les administrations fiscales sont censées contrôler. Sauf que quand vous êtes sur des trucs type publicité sur Google, usage de la marque, et ben en fait c'est hyper compliqué de trouver le juste prix en fait. Oui. Enfin, comment le fisc français peut aujourd'hui dire à Google là-dessus c'est pas le prix, mais en fait personne ne sait quel est le prix le prix du marché des pubs que vend Google, il n'y a pas de comparable en fait. Et par exemple dans le cas de Google, il y a une activité en France. Forcément, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui achètent des pages commerciales pour Google. Tout ça, c'est reversé à la filiale Google en Irlande. Et du coup, en France, on considère qu'il n'y a pas d'activité parce que Google s'est débrouillé pour dire, bah non, l'activité en Irlande, machin. Amazon, c'est la même chose. Vous achetez des livres, c'est renvoyé au Luxembourg. Enfin, et là-dessus, il y a un train de retard. Et là, moi, je voudrais vraiment insister sur ce point, c'est que aujourd'hui, on court quand même derrière des mécanismes hyper pointus. Derrière, il y a des armées d'avocats qui bossent sur la manière de...
Qui anticipent les futures législations.
Qui surtout connaissent mais à la perfection les failles du système pour pouvoir dire, en fait, si vous localisez ça là, vous faites ça comme ça, vous dealez ça avec ça et machin, enfin, vous vous retrouvez avec des factures qui sont quasiment nulles à la fin du montage.
Et légal.
Des fois il faut arriver à aller au-delà de cette distinction légale illégale. On commence par ça pour bien expliquer. Il y a de la fraude, c'est illégal. Il y a de l'évasion, c'est légal. Ça va pas. Mais en fait, c'est toujours la zone un peu grise parce qu'à un moment donné, quand vous tordez les lois à ce point pour éviter de payer des impôts, même la légalité là-dedans, elle tient plus longtemps, quoi. Donc c'est vraiment cette zone grise sous couvert. Même l'OCDE parle d'optimisation fiscale agressive maintenant parce que ce terme d'optimisation fiscale il est super positif. Vous avez optimisé dedans, il y a un côté un peu sympa. Et du coup. On est vraiment sur des montages, dans le cas aussi, surtout, des grosses entreprises du numérique, qui sont facilitées parce qu'il n'y a rien de tangible, il n'y a rien de comparable, c'est compliqué, donc il faut réglementer ça, et du coup, derrière, vous avez 10 ans de perdu, quoi. Donc, c'est effectivement un vrai gros challenge.
Et Denis Dupré, ce qui est intéressant aussi, c'est que, on a tendance à associer évasion fiscale et paradis fiscal, mais finalement là, on a parlé de l'Irlande, du Luxembourg, de la Suisse, qui sont pas dans la définition, dans les différentes définitions des paradis fiscaux.
Ah ben, dans les paradis fiscaux, dans les définitions des paradis fiscaux, il n'y a pas grand-chose, hein, comme vous dira Lucie Vatry.
Disons qu'il y a la définition théorique et puis il y a la définition juridique par les différents États ou par l'Union européenne.
Bien sûr, comme ont dénoncé les ONG avec raison, le Delaware qui est aux États-Unis, c'est un paradis fiscal et on n'est pas prêt de le considérer dans la liste des paradis fiscaux. On ne va pas faire la guerre aux États-Unis. Hein. Donc on est tranquille. Que le paradis fiscal Delaware, il marchera toujours et il permettra toujours de faire les pratiques actuelles. Hein. Tant qu'on n'aura pas ce dont on va parler tout à l'heure, le fait de savoir et que les citoyens soient au courant que telle entreprise multinationale, elle fait dans le Delaware un chiffre colossal d'affaires alors qu'elle n'a aucun salarié et que... Et qu'elle n'a pas de chiffre d'affaires et qu'elle, enfin, qu'elle a rien à y faire parce qu'elle n'a pas de clients. Et ça peut se voir que si les citoyens ont accès aux données que le fisc demande maintenant aux entreprises.
Juste, oui, sur les listes, effectivement, comme le dit Denis Dupré, en fait, c'est quelque chose de tellement politique qu'il faut rien en attendre. Enfin, ça peut mettre la pression sur certains États, ça l'a fait par le passé, mais c'est vraiment pas la solution absolue. Effectivement, une liste de l'Union européenne ne comprendra jamais ni l'Irlande, ni le Luxembourg, ni les Pays-Bas, qui sont pourtant reconnus aujourd'hui
surtout
comme
des pays membres. Oui, ça risque d'être compliqué.
Oui, mais enfin, du coup, à un moment donné, il faut être conscient de cette. On peut pas être à la fois juge et partie et les listes officielles ne comprendront jamais les principaux paradis fiscaux de la planète. On n'aura jamais le Delaware, on n'aura jamais la City de Londres. Du coup, on en parle tout à l'heure.
Une harmonisation fiscale serait beaucoup plus efficace, déjà rien qu'à l'échelle de
l'Union européenne.
On est loin, ouais. On va faire une première pause musicale avec Heart of Glass du groupe Band Apart.
Once I had a love and it was a curse, soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing only to find much mistrust love can be.
C'était Heart of Glass de Band Apart. Vous êtes toujours sur Parents, Fréquence Paris Pluriel au 106.3 FM. L'émission Monde d'emploi est toujours animée par la Fondation Copernic et consacrée à l'évasion fiscale. Pour venir au sujet que l'on abordait, on voit au cœur de l'actualité les différentes affaires qui, encore une fois, on le disait, arrivent de partout. Il y a eu Google cette semaine, il y a eu McDonald's. Comment ces affaires font avancer cette problématique et au cœur des politiques parlent.
Bah en fait, c'est vrai qu'on a sur les questions d'évasion fiscale, on a quand même beaucoup avancé grâce au scandale ces dernières années, puisque enfin il y a 10 ans, mes prédécesseurs prêchaient un peu dans le désert, et c'est vrai qu'à force, non seulement il y a la crise qui rend absolument insupportable l'idée que les grands puissants, que ce soit les entreprises ou les particuliers, se débrouillent pour ne pas payer d'impôts, et en plus après il y a eu une série de gros scandales. Pour citer les plus récents, il y a eu le scandale du LuxLeaks, donc le scandale de novembre 2014 qui a montré comment l'administration luxembourgeoise, avec l'aide de PricewaterhouseCoopers, un grand cabinet d'audit, a permis à plusieurs centaines de multinationales d'éviter de payer des impôts partout en Europe.
Et puis strictement légalement, avec un mécanisme, mais quand même un peu secret, quoi. Il était quand même pas très public, le mécanisme.
Il n'était pas du tout public, alors que normalement, il y avait un accord plus ou moins tacite entre les États européens pour se dire ce genre d'accord.
Moi, ce que chacun fait.
L'usage de ces rulings, la légalité est quand même légèrement remise en question puisque la Commission européenne a ouvert plusieurs enquêtes, c'est pas que au Luxembourg, hein, aussi en Irlande et aux Pays-Bas. pour aide d'État illégal. Ces fameux accords secrets, en fait, le fait qu'ils soient secrets et qu'ils accordent des avantages nettement supérieurs à certaines entreprises par rapport à d'autres, la Commission européenne a considéré que que c'était une distorsion de concurrence. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que on dit c'est légal, oui, en fait, c'est pas si légal que ça parce qu'on est vraiment dans ce cas.
C'est légal dans le sens où dans l'État lui-même, c'est légal dans le Luxembourg, mais à l'échelle européenne, par rapport au droit européen, c'est peut-être pas si légal que ça.
Voilà. Et puis parce qu'en fait, un ruling, donc ces accords que vous avez avec des administrations, en fait, en soi, c'est pas vraiment un problème. Hein. Si vous vous mariez demain et que vous voulez savoir quel sera votre régime fiscal à compter de la date de votre mariage, vous envoyez un courrier à l'administration fiscale française, c'est un ruling. Un ruling.
Ça concerne un peu moins de zéro, quoi.
Oui, mais c'est non, mais un ruling, en fait, il y en a plein. Il y en a plein qui posent pas du tout problème.
D'accord.
Ce qui pose des problèmes, c'est les rulings qui sont passés par les multinationales pour dire bon, mais attendez, moi j'ai ça chez vous, j'ai ça là-bas, on va se mettre d'accord, et puis finalement je vais payer que ça, et puis on va localiser ça là, et au final vous avez une facture qui, comme l'a montré le scandale du LuxLeaks, pouvait être en dessous de 1% d'impôt sur les bénéfices au Luxembourg. Donc il y a eu ça, il y a eu le scandale du SwissLeaks, alors c'était plutôt sur la fraude fiscale, il y a la liste des particuliers qui avaient mis de l'argent dans une banque en Suisse qui a été rendue publique en janvier.
Et des gens qui ne déclaraient pas à leur fisc.
Exactement, donc ça c'était pour
pas mal de Français.
Illégal. Ensuite on a eu, pas un leaks, mais le scandale de McDo aussi qui a fait quand même pas mal de bruit il y a un an et demi, où grâce au travail de plusieurs syndicats au niveau européen, bah, on a vu comment via cette filiale au Luxembourg, McDo faisait perdre des milliards aux États européens par an. Et puis dernièrement, on a eu le gros scandale des Panama Papers. Alors c'est encore un autre mécanisme qui a été mis en évidence, contre lequel on se bat aussi depuis des années, c'est celui des sociétés écrans. Alors ces fameuses sociétés écrans, c'est quand vous ouvrez une société, par exemple au Luxembourg ou au Panama ou au Caïman, et légalement dans ces pays-là, il y a la possibilité de créer une société en mettant quelqu'un d'autre à la place comme propriétaire, ce qui fait qu'en fait on peut jamais revenir à vous. C'est une société écran, on ne connaît pas le propriétaire réel. Alors à quoi ça sert ? Ça peut servir à frauder effectivement l'impôt, ça peut servir aussi à blanchir de l'argent, à cacher de l'argent issu de la fraude, du crime, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment hyper nocif, ces espèces de trous noirs de la finance qui existent dans plusieurs pays du monde. Et ça, c'était encore un autre volet qui a été soulevé. Et effectivement, grâce à ces scandales, non seulement le sujet est au cœur de l'actualité, ensuite les politiques se sentent obligés d'essayer de répondre, et nous derrière, ça nous permet de remettre la pression pour essayer de faire en sorte qu'on avance vers des vraies mesures qui permettront de lutter contre ces pratiques.
Pour mieux comprendre les sociétés écrans, donc c'est moi, je suis responsable d'un compte, je suis avocat, je veux aider un de mes clients à cacher de l'argent. Je crée une société écran, je mets de l'argent derrière, et comme ça la personne peut frauder et faire passer de l'argent de façon illégale là-bas. Bon, c'est quelque chose comme ça?
Oui, il y a des intermédiaires dans l'histoire. On va faire comme si vous étiez plutôt une banque. Moi, je suis votre client. Je vous dis, bon, bah voilà, j'aimerais bien mettre de l'argent en lieu sûr. Vous me dites, pas de problème. Je contacte Mossack Fonseca, donc le fameux cabinet panaméen qui a été mis en cause dans les Panama Papers. Et Mossack Fonseca, dont c'est le principal activité, vous dit, pas de souci. On va ouvrir un compte pour votre cliente, je sais pas moi, à Monaco. Et derrière, on verra jamais que c'est votre cliente, la propriétaire de ses sous, on va mettre un salarié, monsieur lambda, qui va être le propriétaire officiel des comptes. Et du coup, on ne saura jamais que c'est votre cliente, donc moi, qui a mis les sous derrière. Du coup, le fisc ne pourra jamais savoir que j'ai mis de l'argent là, ni la justice, ni une quelconque administration que ce soit. Ça marche plutôt comme ça. Et dans le reportage qui est extrêmement intéressant de Cache Investigation, qui est sorti deux jours après, enfin c'était le 6 avril je crois, le 5 avril, il montrait qu'au Panama, Mossack Fonseca avait des gens qui étaient payés mais une misère, enfin qui c'était un peu moins de 1000 euros, et ils étaient les propriétaires officiels de plusieurs centaines de sociétés écrans. C'était leur nom qu'on mettait derrière, donc ils étaient amusés à lister toutes les sociétés écrans, c'était même des milliers, que Madame Machin, et elle vivait dans une espèce de petite maison, et derrière elle, en fait, se cachaient beaucoup de gens extrêmement connus et richissimes.
dans les Panama Papers, là, ce qu'on voit à travers vos explications, c'est que
Panama Papers, on cible le Panama, mais en fait, c'est que le cabinet qui est implanté au Panama, et derrière, il y a une multitude de paradis fiscaux au sens théorique, et pas seulement les paradis fiscaux qui sont montrés du doigt, qui sont concernés derrière ce mécanisme.
Montrés du doigt, nous, on les montrait du doigt déjà. Mais oui, bien sûr, enfin, le problème de Panama Papers, c'est que dans Panama Papers, vous avez Panama, et du coup, on a dit Panama, on va remettre Panama sur la liste noire des paradis fiscaux. Mais en fait, quand vous regardez un peu ce qu'il y a dans ces données, et d'ailleurs les journalistes l'ont dit, hein, en fait c'est une vingtaine de paradis fiscaux qui sont montrés du doigt, et dans le cas de la Société Générale, elle a utilisé le cabinet panaméen pour créer des sociétés offshore, mais il n'y en a aucune sur les 1000 qui ont été mis en évidence par le scandale qui est située au Panama. Enfin, c'était le Luxembourg, c'était Monaco, c'était les Bahamas, mais c'était pas le Panama.
Denis Dupré, vous avez d'autres exemples de scandales comme ça à rajouter à cette réjouissante liste ?
Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans ces endroits-là, il n'y a pas que l'évasion fiscale, il y a aussi le crime organisé qui cache les sommes, et les sommes qui viennent des trafics d'armes, de drogue, de tout ce que vous voulez. Donc il y a en gros au moins 1000 milliards par an qui s'ajoutent chaque année. Rien que de ça, trafic. Vous avez aussi 1000 milliards de corruption dans le monde qui vont s'ajouter là-dessus. Donc vous avez énormément d'argent sale qui augmente de façon colossale dans le monde, ce qui fait qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'argent sale va détenir presque peut-être un quart des entreprises mondiales. Hein, c'est quelque chose de colossal. Et on a eu un pourrissement généralisé, y compris du monde des affaires, parce que ça appartient de plus en plus indirectement aux mafias. Donc on a un vrai problème, et ce problème de multitude de paradis fiscaux, il y a 10 ans, l'appel de Genève a été lancé par 7 juges européens, et c'est Denis Robert qui tenait la plume, et les juges européens ont dit il y a 10 ans, nous on peut plus rien faire. Quand on veut voir une magouille, on va de compte en compte, et pour aller d'un compte à l'autre, il faut en général une année ou deux pour avoir les informations des pays concernés, et des fois on n'en a jamais. Et dans les montages, il y a 10 ans, les montages qui commençaient à se sophistiquer, il y avait des fois des enchaînements d'une centaine de comptes qui s'enchaînent. Donc vous voyez, il faudrait 2000 ans pour arriver à démêler d'où vient l'argent et qui a fait quoi. Donc le système est complètement pourri, vicié, et je suis un peu moins optimiste. Je pense que on aura du mal, et c'est pas du tout gagné, de mettre de la transparence. D'autant plus que même la France, sous Sarkozy en 2010 ou je sais pas quand, s'est dit ben moi aussi je voudrais être France paradis fiscal, et on a fait une législation pour mettre des trusts en France. C'est-à-dire ces sociétés écrans, on a voulu faire pareil et les mettre en France. Oui. Et là on se réveille en disant ah ben oui, Flute c'est des sociétés écrans, c'est pas bien, alors maintenant il faut qu'on rajoute en France qu'on va pouvoir savoir qui est bénéficiaire de ces sociétés écrans. Et donc on met une loi pour essayer de clarifier un peu ça.
Bon, on l'a mise en place en 2013. Les fiducies en France, oui, la loi qui concerne la transparence sur les fiducies, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Parce que, bon, non seulement il n'y a pas beaucoup de trust en France, mais en plus, avec cette loi-là, ça permettrait d'obliger la transparence pour tous les Français qui sont soit bénéficiaires, soit, en gros, hommes de paille des autres trusts dans les autres pays. Donc, là-dessus, il y a eu une avancée en 2013 en créant un registre public, en fait, des bénéficiaires des trusts. Et on a attendu 2 ans et demi pour le décret d'application, mais il vient de sortir. Donc, du coup, là, a priori, d'ici peu, on pourra avoir enfin accès à ce registre. Voilà. Et c'est aussi une manière d'inviter les autres pays de l'Union européenne, voire du G20, de faire de même. Et on pense qu'en tout cas, la création d'un registre public pour les propriétaires réels des trusts et des sociétés écrans, ce serait déjà une belle avancée au niveau international.
Denis Dupré, là, vous avez évoqué le nom de Denis Robert. Bon, même si lui, c'est un journaliste, mais derrière ces différentes affaires, il y a souvent une, deux ou trois personnes qui sont à la source de ces révélations. Donc voilà, on a ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, même si ça ne concerne pas que les affaires fiscales, ça peut concerner d'autres scandales. Quelles sont un peu les différentes situations des lanceurs d'alerte sur ces affaires-là ? Et voilà, on parle aujourd'hui d'éventuelles protections. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Hein.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. C'est très clair qu'il y a des lanceurs d'alerte dans des tas de domaines. Par exemple, ça peut être dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, avec des grands scandales. Dans le domaine de corruption en France, dans des systèmes de corruption, même. Et du coup, à chaque fois qu'il y a eu des lanceurs d'alerte, en France, ils ont eu des problèmes. Et ils
presque plus que les personnes concernées.
Hein, donc les personnes ont toujours des problèmes dramatiques. Donc il était urgent de faire un statut, effectivement, un statut du lanceur d'alerte. Parce qu'en général, de toute façon, il dénonce un scandale. Il y a de plus en plus de scandales à dénoncer. De moins en moins de gens qui osent parler, parce qu'après, on a toujours des ennuis. Et du coup, il faut faire quelque chose si on veut que la société s'améliore. Il faut qu'il soit protégé. Et actuellement, si vous faites le tour des lanceurs d'alerte dans la finance, ils ont tous eu des problèmes. Il y a une lanceuse d'alerte qui ne retrouve plus d'emploi, qui est au minimum, qui est à 400 euros par mois. Vous avez notre ami Antoine Deltour qui a son procès en cours. On ne sait pas ce que ça va
avec des grosses amendes et des peines de prison ferme.
Vous avez Denis Robert qui a eu des ennuis
corruptions.
Et heureusement que le Conseil constitutionnel a fini par dire, comme il est journaliste, toutes ces affaires, toutes les attaques contre lui, parce que le Luxembourg faisait attaque sur attaque contre lui. Il avait eu 400 procès.
Oui, il y en a eu quelques-uns, oui.
Et donc, c'est une catastrophe. Vous dénoncez quelque chose qui est vrai, qui est terrible pour la France, qui est terrible pour tout le monde, et vous êtes certain d'avoir des ennuis. Donc, il est grand temps de faire un statut.
Tout à l'heure, vous avez dit il était grand temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu des avancées, où en est-on ?
On en est à la loi transparence, là.
Donc c'est encore en cours.
Hier, c'est terminé en commission des lois, donc avant le premier passage en plénière à l'Assemblée. Hier, il y avait l'étude en commission des lois du texte sur la transparence, la corruption et la transparence de la vie économique. Et sur les lanceurs d'alerte, il y a eu des avancées parce qu'ils ont proposé de créer un statut global des lanceurs d'alerte avec quand même pas mal de garanties à la clé, notamment la protection de l'anonymat, des dédommagements financiers en termes de procédures judiciaires. Et la définition, pour nous, elle devrait être encore plus large et on devrait aller un tout petit peu plus loin en disant qu'on pourrait poursuivre pénalement des gens qui s'opposent à l'alerte, en fait. Mais sinon, il y a quand même eu pas mal d'avancées. Bon, c'est que la commission, hein. Ensuite, c'est faut que ça passe à l'Assemblée, puis au Sénat, puis à l'Assemblée. Mais là, on commence à se dire peut-être qu'il faudrait un statut global de protection des lanceurs d'alerte. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais malheureusement, ça ne va pas changer l'histoire de notre ami Antoine Deltour, qui effectivement est aujourd'hui en procès. Enfin, on attend le verdict du procès pour le 29 juin.
Sachant que les réquisitions sont assez effrayantes.
18 mois ferme quand même. Enfin, c'est beaucoup quand on sait que grâce à ces révélations, on a quand même mis à jour un scandale absolument terrible au niveau européen en matière d'évasion fiscale, qu'il y a eu des avancées certes timides, mais quand même ça a fait bouger l'Europe sur ces questions. Pour nous, ça va pas assez loin, mais ça faisait longtemps qu'elle s'était pas penchée de manière sérieuse sur ces questions. Et derrière, lui, il risque 18 mois ferme.
Monsieur Dupré, vous parliez tout à l'heure de 3000 personnes, 3000 noms qui avaient été retirés dans l'affaire Luclix. Est-ce que pour les lanceurs d'alerte, justement, il n'y a pas beaucoup de freins et ça en ferait partie de détourner leur information, d'en retenir une partie ?
Ah ben, effectivement, il y a ce problème. Et le juge Éric de Montgolfier, sur cette affaire des noms sur les comptes de la liste Falciani, a toujours trouvé bizarre qu'on donne en pâture quelques noms et qu'on donne pas toute la liste des noms. Et puis, il a trouvé aussi bizarre qu'il y ait des noms qui aient disparu dans la liste. Et ça, effectivement, le pouvoir politique sur ces questions-là doit mettre un certain tabou parce que ça touche énormément sûrement de gens haut placés, de droite comme de gauche. Et du coup, il y a une omerta politique complète. Et du coup, on a préféré faire une loi pour régulariser les gens à Bercy, tranquillement, dans le secret. C'est sûr que si vous étiez député, que vous aviez des comptes non déclarés en Suisse, vous préférez payer quelques pourcents pour rapatrier vos comptes sans avoir de soucis et de problèmes. Donc ça, c'est sûr que c'est... Alors, moi, ce que je veux saluer pour les lanceurs d'alerte, c'est quand même... Ce qui se passe, c'est grâce aussi principalement aux ONG qui soutiennent ces combats. Et dont le CCFD, donc Lucie Vatrinet, et d'autres ONG. Et s'il n'y avait pas cette pression des ONG, rien ne se passerait. Donc, il faut souligner ça, le combat, il est grâce aux ONG. Par contre, pour l'avancée sur la transparence fiscale, on pourra reparler de ce qui s'est passé hier. Il y a une question clé qui est justement ce reporting.
Oui, on va en parler après la prochaine pause musicale, mais avant que Lucie Vatrinet nous quitte, on finira l'émission avec vous, Denis Dupré. Je voulais évoquer l'évasion fiscale comme facteur supplémentaire de développement des inégalités entre Nord et Sud. Vous, c'est une question aussi qui vous tient à cœur.
C'est pour ça, en fait, que le CCAD, qui est une organisation de solidarité internationale, en fait, s'est penché sur ces questions à la base. Parce qu'on s'est rendu compte que les pays en développement perdaient par an presque 250 milliards d'euros, enfin ça peut, c'est sans doute beaucoup plus, hein, mais au moment où on s'est intéressé à cette question, c'était fraude et évasion fiscale confondues, 250 milliards d'euros par an. Et en fait, on s'est dit, en fait, c'est deux fois l'aide publique au développement qui rentre. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant de lutter contre ces pratiques, parce que non seulement ça permet, on est sur une dynamique de souveraineté des États, puis après c'est une responsabilité aussi française. On se dit, bah tiens, on pourrait peut-être essayer d'être exemplaire pour que, par exemple, nos entreprises payent leurs impôts là où elles ont leurs activités. Donc si elles ont des activités au Cameroun, peut-être s'assurer que les impôts sont payés correctement.
Et on a quelques entreprises dans ces pays-là, notamment.
Voilà, donc du coup, pour nous, et c'est aussi l'enjeu, puisque je vais devoir vous quitter. Je sais que Denis suit de très près cette histoire de transparence fiscale, mais juste un petit mot, parce que c'est lié aux pays en développement. Nous, ce qu'on préconise, c'est que toutes les entreprises soient obligées de rendre publiques des informations dans tous les pays où elles sont présentes. Il y a une grosse lacune hier, et je fais confiance à Denis Dupré pour en parler. Et en fait, si on veut que ce soit dans tous les pays, c'est parce qu'on a besoin de savoir ce que fait Total aux Bermudes, au Nigeria, au Cameroun. On veut savoir si, en fait, les impôts qui sont payés correspondent à l'activité réelle. Savoir si, avec un certain nombre de salariés, un certain volume de chiffre d'affaires, eh ben, vous payez les impôts qui correspondent. Et ça, c'est la bataille qui s'annonce dans les prochaines semaines. Denis Dupré suit ça de très près et je lui fais confiance pour en parler après la pause. Merci beaucoup.
Bah, Lucie Vatrinet, merci à vous. On va faire une deuxième pause musicale. On va écouter le groupe Batlick et son morceau L'écart.
Toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. C'était Batlick avec l'écart. L'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic est toujours consacrée à l'évasion fiscale. Denis Dupré, on va reprendre avec vous sur les actions qui sont menées au quotidien par des militants ou par des personnes comme vous, les pétitions, les événements. Qu'est-ce qui est fait au quotidien pour faire avancer ce sujet complexe qu'est l'évasion fiscale, autant pour en parler médiatiquement et en discuter de façon ouverte, et puis d'autre part pour faire avancer les politiques publiques?
Alors du coup, pour faire avancer les politiques publiques, la pétition, elle était partie, cette pétition qui a atteint 100 000 citoyens qui l'ont signée et qui étaient tous, si vous regardez les commentaires, il y a 10 000 commentaires, les gens sont offusqués par ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'était en décembre 2015, il y a eu un amendement qui a été déposé, amendement 340, et du coup, qu'est-ce qu'on demandait dans cet amendement? Ben, des choses simples. On demandait pas l'impossible. Cet amendement, il demandait que chaque entreprise multinationale ou entreprise qui fait plus de 40 millions de chiffre d'affaires disent, pour chaque filiale et dans chaque pays, combien elles ont d'employés, combien elles font de chiffre d'affaires, combien elles font de bénéfices. Vous voyez, on demandait 4 chiffres. C'est pas grand-chose. Normalement, en plus, toutes les entreprises peuvent le faire. Et que ce soit des informations qui soient rendues publiques. C'est-à-dire que les citoyens puissent y avoir accès. Alors pourquoi cette question d'y avoir accès? Mais parce que on voit que le, quand ces informations elles sont justes, détenues par les impôts, par Bercy, par le fisc, ça marche des fois pas aussi bien que si les citoyens font pression. Hein? Et du coup, par exemple, pour les banques, uniquement pour les banques, pas pour les entreprises, depuis 2015, elles sont obligées de révéler ces chiffres. Et grâce à ça, le CCFD et puis d'autres ONG ont pu faire un rapport en disant « Mais attendez, comment ça se fait que les banques font autant de bénéfices dans des filiales, dans des paradis fiscaux ?» Elles font plein de bénéfices alors qu'elles n'ont pas d'employés, presque pas d'employés, etc. Donc c'est comme ça que vous levez les incohérences et que vous levez l'évasion fiscale. Alors pourquoi elles font tant de bénéfices là-bas? C'est parce qu'elles font, elles s'arrangent pour faire implicitement des prix de transfert ou d'autres choses. Et donc on voit que s'il n'y a pas la pression des citoyens, le fisc, il peut parfois être moins vigilant et puis il peut parfois aussi se dire, bah, si telle multinationale lui fait du chantage en lui disant, ah bah oui, mais moi si j'ai trop de pression d'impôts, bah, je pars dans un autre pays, il peut avoir tendance à pas regarder. Donc le fait que les citoyens aient accès, c'est fondamental. Et c'est un droit qui était déjà dans la constitution des droits de l'homme, hein, que, qu'on puisse regarder le fisc, comment on prélevait l'impôt. Et donc ça, qu'est-ce qui s'est passé? Cet amendement, il est à l'Assemblée nationale, à 1h du matin, on a voté pour. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de pour que de contre, donc l'amendement est passé, donc a priori. Or, qu'est-ce qu'a fait le ministre du budget, Christian Eckert? Ça l'arrangeait pas qu'il y ait cet amendement de transparence, que les citoyens aient accès aux données. Et du coup, il a fait suspendre la séance, soi-disant 5 minutes, finalement la suspension de séance a duré 40 minutes, et l'a fait revoter. Alors là, c'est légal, mais pas légitime et pas démocratique. Hein. C'est légal, par contre. Il a fait revoter. Et du coup, pendant ces 40 minutes d'interruption de séance, il s'est arrangé pour faire revenir des gens et puis pour en faire partir certains. Et puis pour faire changer d'avis. Par exemple, un député de Naja a changé d'avis. Il a voté pour la transparence avant, puis après l'interruption de séance, il a voté contre. Et c'est lui, ce député des Naja, qui est justement aujourd'hui, hier, il est responsable de la commission de finances à l'Assemblée nationale pour la nouvelle prochaine loi sur la transparence Sapin 2, sur ce qui concerne notamment ce reporting public. Et alors, il a redéposé un amendement, mais un amendement qui n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même histoire. C'est un amendement qui dit, on va déposer pour les multinationales et pour les grandes entreprises, on va donner ces informations, pays par pays en Europe, mais pour le reste du monde, on fait un gros agrégat et du coup, on ne saura pas le détail. Donc, on n'aura aucune information sur la filiale aux Bahamas ou au Delaware. Donc, en fait, ça aura strictement aucune utilité pour que les ONG, que les citoyens détectent des anomalies. Et donc, par rapport à ça, hier, il y a aussi un autre député, Pascal Cherki, qui va redéposer un amendement, hein, donc pour le 10 juin, parce que le 10 juin, c'est le point fondamental où les députés vont voter, il va redéposer un amendement comme celui de décembre 2015 en demandant de la transparence pays par pays pour que les citoyens puissent avoir l'information. Donc ça va être fondamental le combat des ONG et le combat qu'on va mener nous avec les ONG, hein, pour que pousser les députés à voter pour cet amendement de Pascal Cherki et pas l'autre amendement qui donnera des données qui nous serviront en fait à pas grand chose, hein, et pour avoir une vraie transparence fiscale.
Cette question du reporting du chiffre d'affaires, des profits, des effectifs et des impôts pays par pays, c'est un point important qui est soulevé depuis pas mal de mois par la mobilisation citoyenne. Est-ce qu'il y a d'autres revendications sur la question de l'évasion fiscale qui sont apportées par le mouvement social?
Ben, moi je pense qu'après, les revendications qui seraient portées par le mouvement social, mais qui sont portées pas actuellement de façon précise, c'est que par exemple en Europe il y a une harmonisation fiscale.
Parce que, on en parlait tout à l'heure.
Si on n'a pas d'harmonisation fiscale, c'est sûr que les entreprises avec leurs filiales vont jouer au chat à la souris Et puis, comme vous a dit Lucie Vatrinet, ils sont beaucoup plus forts que les autres parce qu'ils ont des batteries d'avocats. Et je peux vous inventer 10 façons de, d'essayer de faire apparaître les plus-values plutôt dans d'autres pays. C'est pas si compliqué que ça. C'est tellement si normal que finalement, toutes les grandes entreprises multinationales, en moyenne, elles payent 5%, 8% de l'impôt, voire pas d'impôt du tout. Il y a des grandes entreprises américaines qui ont payé 0% d'impôts pendant plein de temps.
Quand on parle d'harmonisation fiscale, c'est que les États se mettent d'accord sur des taux d'imposition, des mécanismes d'imposition aussi. C'est ça qu'on entend par une harmonisation fiscale. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit fait à l'échelle européenne ?
Ben, qu'à l'échelle européenne, que les impôts sur les bénéfices, quand vous êtes en Irlande, que ce soit pas 10% ou 5%, que quand vous soyez au Luxembourg, que vous puissiez pas le négocier avec l'État du Luxembourg pour que ça fasse 1% ou rien du tout. Donc que ce soit un taux qui soit le même dans tous les pays d'Europe. Sinon, on va être conduit à que ce mécanisme va forcément perdurer. De X façon, moi, je suis pas positif là-dessus. Si on ne fait pas d'harmonisation, ces mécanismes vont perdurer. Et ils perdureront d'autant plus qu'il n'y aurait pas la transparence pour les citoyens. C'est-à-dire que si le citoyen ne sait pas qu'une grande entreprise ne paye que 3% d'impôts, il n'a pas de raison d'hurler. Mmh. À partir du moment où on est en train de lui couper et tous ses budgets sociaux et ses budgets de santé, etc., et qu'en même temps, il sait que les grandes multinationales ne payent pas d'impôts, s'il n'est pas actionnaire... Il touche rien et il a raison de te taper du poing sous la table. Et c'est ce qui se passe, parce que ça fait 10 ans que tout le monde les connaît, ces mécanismes. Hein, ils sont sur la place publique. Moi, j'ai écrit un livre il y a 10 ans, tout était dedans. Et 10 ans que tout le monde s'en fiche. Hein. Mais par contre, avec la crise, à partir du moment où vous avez du mal à survivre, ben, ça commence à devenir insupportable. Comme devient insupportable la corruption de votre mère qui fait passer les terrains de ses copains constructibles. Avant, ça vous faisait rigoler, il y a quelques années. Puis si vous n'arrivez plus à vivre, ça devient insupportable.
Vous disiez qu'il fallait que les citoyens tapent du poing sur la table. Comment taper du poing sur la table ? Ce sera vers notre mot de la fin. Nous approchons de la fin de cette émission. Du coup, ma question, c'est comment s'engager ? Que faut-il faire, nous, à notre niveau ? Et vers quoi faut-il militer ?
Alors... moi, je pense qu'il faut, là, pour l'instant, il faut rejoindre sur cet aspect des paradis fiscaux, etc. Il faut rejoindre les mouvements qui regroupent des pétitions et des pressions fortes. Alors, vous avez le groupe Plateforme Paradis Fiscaux qui a une pétition de plus de 200 000 voix. Vous avez aussi Eva Joly qui a lancé sa pétition au niveau européen qui a 400 000 voix. Il faut absolument les soutenir. Vous avez notre pétition qui a 100 000 voix. C'est un peu comme le TAFTA avec la pétition contre qui a atteint 3 millions de voix. Et pour l'instant, c'est la première étape, c'est de se regrouper pour se compter et pour dire maintenant ça suffit. Alors nous, ce qu'on avait fait, c'est on avait envoyé envoyer des mails à tous les députés. Si on inonde les députés de mails et puis si on leur fait pression à chaque fois qu'on les voit en leur parlant des choses en disant c'est un scandale la façon dont ils... s'occupe de nos affaires publiques, ça aura de l'impact. Et je sais que, par exemple, la pression qu'on avait faite, ça les avait bien embêtés de recevoir plein de mails et plein de gens qui se plaignent en disant « qu'est-ce que vous faites ? Ça va pas du tout ». Et donc, je pense que la première étape, elle est là. Et après, la deuxième étape, c'est effectivement reprendre le pouvoir, c'est-à-dire arriver à imposer ses façons de faire. Et là, c'est forcément par les élections qu'il faudra faire bouger les choses. Alors, il faut voir qu'au niveau européen, c'est Juncker, c'est lui qui a participé à ces tax rulings.
Oui, ça, c'est pas un très bon signe.
À l'époque. Donc, on n'est pas très bien barré, hein, pour l'instant. On n'est pas très bien barré. On a quand même des gens qui ont mis en place tous ces systèmes-là et qui nous dirigent. Et qui m'ont mis en place tout ce système, et il faut changer ce système. Donc c'est un changement radical, et du coup, il faut que les citoyens se bougent en se disant, nous, on peut changer notre vie, on peut changer les façons de faire, et on peut faire sauter nos maires, nos députés, nos présidents, parce qu'on veut autre chose.
Mais très bien. Denis Dupré, on vous remercie. On va finir sur cette note d'optimisme. Vous pouvez écouter l'émission sur les sites de la Fondation Copernic et de Mode d'Emploi. Le prochain numéro de Mode d'Emploi animé par la Fondation Copernic, ce sera le vendredi 24 juin sur les politiques culturelles. Et on se quitte avec Ben Harper, Excuse Me Mister.
Merci encore.
Bonne soirée.